c'est l'unique pouvoir que nous avons, d'utiliser la parole pour évoquer leur situation tragique et d'appeler aux autorités qui ont le pouvoir de faire quelque chose. Malheureusement, l'Église n'a pas accès à ces gens, ceux qui sont dans les Sinaï, ceux qui sont en prison en Israël. Mais je pense que nous sommes très conscients de notre responsabilité de parler très fort sur cette situation tragique.
Dans votre appel, vous interpelliez directement les autorités civiles égyptiennes et israéliennes, leur demandant d'agir de manière décisive contre les trafiquants. Très concrètement, quelles ont été les mesures prises jusqu'à présent?
C'est difficile à dire. Bon, essayons de souligner ce qui est positif. Par exemple, Israël a arrêté un des collaborateurs de ce côté de la frontière, un bédouin du Negev, qui est impliqué dans les prises d'otages. Cela est un acte concret. Nous souhaitons que ce sera beaucoup plus actif que ça, parce que nous savons qu'en Israël, il y a beaucoup d'autres collaborateurs. Et je dois dire, et cela est très triste, pas uniquement dans la population bédouine, mais aussi parmi les pauvres réfugiés érythréens, il y a ceux qui sont des collaborateurs avec les trafiqueurs. Et du côté égyptien, nous savons que la situation en Égypte est très complexe, très fragile. Il y a un chaos, mais même en Égypte aussi, il y avait des confrontations, même des morts dans des affrontements entre les autorités égyptiennes et les gens qui prennent les otages. Mais ce qui a été fait jusque maintenant est largement insuffisant.
Les migrants parviennent-ils, certains, à obtenir le statut de réfugié politique?
Non, malheureusement pas. Israël donne un statut assez spécial à ces gens d'Afrique qui arrivent en Israël. Ce n'est pas le statut d'un réfugié. Ils ont un statut qui leur garantit qu'ils ne seront pas déportés. Mais ils n'ont pas le droit de réfugiés. Et cela est dur pour cette population parce qu'en cela, ils trouvent un travail qui n'est pas protégé, ils n'ont pas une assurance de santé, ils n'ont pas le service qu'un réfugié peut avoir dans un État qui donne le statut de réfugié. Pour cela, cette population qui aujourd'hui en Israël constitue autour de 50 000 personnes vit dans une précarité épouvantable.
La situation est similaire en Égypte?
En Égypte, c'est bien pire à cause du chaos civil, à cause du fait qu'il y a une population beaucoup plus grande en Égypte, des Soudanais et des Érythréens. Et bien sûr, l'Égypte est un pays beaucoup plus pauvre qu'Israël. Par exemple, en Égypte, les enfants ne fréquentent pas l'école, ils peuvent rester dans le pays pour des années. Grâce à Dieu, en Israël, nous avons une loi d'éducation obligatoire qui oblige les écoles à accueillir tous les enfants qui sont en Israël, n'importe la situation de leurs parents.
Lorsque les personnes arrivent en Israël ou en Égypte, ou lorsqu'elles parviennent à échapper aux mains de leurs ravisseurs, ces migrants sont souvent épuisés, blessés, malades. Qui leur vient en aide d'un point de vue médical?
Uniquement les associations qui travaillent avec ces gens. C'est très difficile, c'est-à-dire, si quelqu'un est blessé gravement, il peut être traité à l'hôpital. Un hôpital israélien n'a pas le droit de refuser de traiter quelqu'un qui est en danger de mort. Mais le problème est qu'il ne peut rester à l'hôpital que pour un temps très bref, jusqu'à ce que sa vie n'est plus totalement en danger. Ces gens n'ont pas le droit de base, qui fait partie des droits de l'homme aujourd'hui, d'avoir des traitements médicaux, psychologiques, psychiatriques dont ils ont besoin.
L'Égypte et Israël ont-ils entrepris de discuter, de mettre au point des programmes pour faire face à cette très grave question?
Il y a très peu de collaboration, c'est-à-dire Israël exige que les frontières soient bloquées, que les gens de l'Afrique ne passent pas aussi librement en Israël. Israël aujourd'hui menace de construire une prison encore plus grande, une prison qui peut accueillir plus que 10 000 prisonniers. Cela peut-être est la réalité, mais la rhétorique est aussi de faire peur aux gens, de dire ne traversez pas, parce qu'ici, vous n'êtes pas les bienvenus. Malheureusement, hein, le centre d'accueil de ces gens est le sud de Tel Aviv, et là, les gens arrivent pour chercher des travaux qu'ils peuvent faire pour survivre. Et de plus en plus, il y a une rhétorique de nos chefs d'État, des autorités municipales contre ce monde, jusqu'à la situation que nous avons eue pendant les dernières semaines d'attaque, de lancement de grenades contre les résidences où habitent ces gens. Beaucoup de ce monde vit aussi sur la rue. Il y a un parc au sud de Tel Aviv où les gens dorment la nuit. Une population parmi laquelle il y a pas tellement de vieillards parce qu'ils ne peuvent pas survivre à un tel voyage, mais beaucoup d'enfants. Et pour cela, je dis encore, le monde doit savoir que cette population est là et il faut venir à l'aide d'une population qui vit dans cette précarité, cet enfer.
Y a-t-il malgré tout quelques signes d'espérance?
Les signes d'espérance sont les personnes courageuses en Égypte, en Israël, qui sont prêtes à se mettre à côté de ce monde, dans un amour pour autrui qui vient s'exprimer dans la solidarité avec ce monde, dans les tentatives de les aider dans tous les domaines de la vie. Là, on voit vraiment le meilleur de l'humanité. Il faut avoir la confiance que Dieu écoute nos prières et que les braves gens qui sont en solidarité avec cette population souffrante puissent crier de plus en plus fort pour que cette voix sera entendue.